Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Okapi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Bien, en République démocratique du Congo, les communautés locales ont souvent du mal à bien gérer les projets de développement communautaire. Dans la plupart des cas, ces projets sont confiés à des personnes qui s'y passent pour des représentants de la communauté, mais sans la moindre compétence. Alors comment les aider à mieux gérer, à gérer efficacement, rationnellement, les projets de développement communautaire? Madame Brigitte, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi un projet de développement communautaire?
Un projet de développement communautaire, c'est tout simplement les activités qui sont mises en commun par une communauté bien donnée, envie d'améliorer leurs conditions de vie.
D'accord.
Ce qu'on appelle un projet communautaire. Donc, un projet qui n'appartient pas à une personne, mais plutôt à toute la communauté. La communauté est en même temps bénéficiaire et acteur des actions qui seront mises en place.
Un exemple,
ce qu'on appelle un projet
De projet de développement communautaire.
Je peux parler l'érection d'une école, par exemple, ou bien d'un pont. Ça peut être un village qui est enclavé et il n'y a pas moyen que la population qui vit dans ces villages arrive soit à amener leurs produits dans des centres de consommation, soit alors à faire venir les produits dans le village. Alors, la communauté se met ensemble pour voir comment ils peuvent mettre fin à cette situation. Alors, ensemble, ils mettent leur intelligence ainsi que le moyen
pour avoir des routes de dessertes agricoles
ou alors l'érection d'un pont, ainsi de suite. C'est ça ce qu'on peut appeler un projet communautaire. Donc, c'est quelque chose qui appartient à la communauté, qui est différent d'un projet individuel. Les projets individuels, ça peut être par exemple la construction d'une maison d'habitation. Ça, c'est chacun qui a ses propres moyens, qui se met à construire sa maison.
Oui.
Ou bien ça peut être aussi une école privée. Une école privée n'est pas un projet communautaire, c'est un projet privé.
Oui,
c'est quelqu'un
sûr.
Qui met un projet pour subvenir à ses besoins, mais tout en rendant service à la communauté. Ça, ce sont deux choses différentes.
C'est ça. Alors, est-ce que vous avez déjà eu à aider les communautés?
Absolument.
Mettre en place déjà ce genre de projet? Vous êtes expert en développement. Vous avez passé votre temps à travailler comme ça dans des localités, des villages.
Absolument. C'est mon expertise. J'ai travaillé pratiquement dans toutes les provinces de la RDC et en dehors de la RDC pour appuyer les communautés à mettre en œuvre de projets de développement communautaire.
Alors, pourquoi les responsables, par exemple, ceux qui gèrent les projets, ont souvent du mal à les gérer correctement?
Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas d'abord le mot « gérer ». C'est le premier élément. Gérer veut dire utiliser rationnellement ce qui est mis à notre disposition. Quand on t'appelle un gérant, cela veut dire que tu n'es pas propriétaire. On te demande tout simplement d'administrer quelque chose qui ne t'appartient pas. Or, malheureusement, la plupart des cas, dans des projets communautaires, ce qu'on a remarqué, c'est que ceux qui sont des gérants, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme les responsables des actions communautaires, se considèrent comme propriétaires. Et à partir de ces moments-là, ils commencent à mener des actions ou des activités pour leur propre compte, ou bien ils les font pour le compte de la communauté, mais tout en se servant beaucoup plus. Donc sur 100% de moyens qui sont mis à leur disposition, il y a au moins 30 seulement qui arrivent au niveau de la communauté et 70 qui restent au niveau de ces gestionnaires. C'est pour cela qu'on a beaucoup de problèmes par rapport aux projets communautaires. La deuxième chose, donc le premier élément, c'était le fait qu'on ne connaît pas c'est quoi gérer.
C'est quoi gérer?
Le deuxième élément, c'est qu'on n'a pas la même vision. Et ça, c'est un élément capital. Parce qu'avant de commencer la mise en œuvre d'un projet communautaire, on doit avoir une vision. La vision veut dire où est-ce qu'on veut aller. Et c'est là, ce n'est pas une seule personne qui peut penser à cela, mais c'est toute la communauté. Parce que pour mettre en place des activités sur le terrain, cela veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Et on doit commencer par les diagnostics.
Donnez-nous un exemple, par exemple, un cas où vous avez aidé une communauté, par exemple, à mettre en place un projet.
Bon, voilà. Donner un cas, c'est un peu difficile parce qu'il y a plusieurs cas. Oui. En fait, peut-être ce que j'aimerais bien donner, c'est plutôt la démarche.
D'accord. Alors, vous avez parlé qu'ils n'ont pas la même vision, ils ne savent pas comment gérer.
Ils n'ont pas la même vision.
Pas la même
Donc,
vision.
Il y a des problèmes qui se posent dans un milieu.
Oui.
Il faut, la première des choses, c'est que les gens doivent se mettre ensemble pour essayer de voir quels sont les problèmes qui se posent. C'est ce qu'on appelle faire l'analyse du contexte. Et cette analyse doit se faire sur tout le plan, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan religieux. Quels sont les problèmes? Comment est-ce qu'on vit dans notre village? Quels sont les problèmes que nous avons? Comment se posent ces problèmes? Ça, c'est la première des choses. À partir de ce moment-là, quand ils ont su quels sont les problèmes qui se posent, ils se disent, mais comment on peut amener notre village à surmonter ces problèmes? Et qu'est-ce que nous voulons devenir demain? C'est ce que nous voulons devenir demain, là, qu'on appelle la vision. C'est-à-dire, toute la communauté se met ensemble, ils commencent à rêver sur ce qu'ils voudront bien être demain. Je prends un exemple. Un village où il y a un problème de route, d'accessibilité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'école, il y a un problème de mortalité infantile. Donc, il y a plusieurs problèmes qui se posent à la fois. Mais alors, quand les gens se mettent ensemble pour réfléchir, pour commencer à penser comment mettre fin à ces problèmes, ils doivent se dire qu'est-ce que nous voulons que notre village soit demain. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous attendons que partout en Afrique, on dit que nous voulons devenir des pays émergents d'ici 2030, d'autres 2035. C'est une vision qu'ils ont. Oui. Ils ne le sont pas encore aujourd'hui.
Mais
ils
se donnent une vision. Au village, c'est pas tout le monde qui a étudié, donc parfois les niveaux
d'études
aussi.
C'est pas question d'étudier. Non, ça n'a rien à voir. Justement, c'est ça, c'est qui nous bloque, parce que nous pensons qu'il y a que ceux qui ont étudié qui sont capables d'avoir des réflexions. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Moi, je me dis, tout le monde vit dans le village et tout le monde voit les problèmes comment ils se posent, intellectuel ou pas intellectuel. Et c'est justement cette vision des choses qui amène les gens à penser qu'il n'y a que ceux qui ont étudié, qui ont un mot à dire dans un village, qui amène justement des problèmes. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand on se décide à commencer une activité, la plupart des fois, on prend comme leader ceux qui ont étudié.
Soit un instituteur.
Un infirmier.
Un infirmier du
quelqu'un
village.
Quelqu'un qui a beaucoup plus étudié dans le village, c'est celui-là qu'on prend.
Ou un notable.
Et on a remarqué que ce sont les mauvais gestionnaires. Ce sont ceux-là, justement, qui tirent la couverture de leur côté. Parce qu'ils savent comment manipuler les chiffres, comment manipuler aussi le langage. Et c'est comme ça qu'ils flouent les autres. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas toujours des impacts de projets quand même.
Il semble que les chefs coutumiers aussi créent beaucoup de désordres dans tout ça.
Absolument. C'est pour cela que partout où moi j'ai été travailler avec les communautés, j'ai toujours suggéré que le responsable qui doit commencer, les leaders qu'on doit choisir, que ça ne soit pas les chefs du village. Mais plutôt que celui-là, qu'il soit le premier conseiller. Le conseiller pour donner des directives, pour voir est-ce que ce qu'on est en train de faire, on le fait dans le bon ou dans le mauvais. Parce qu'à partir du moment où il devient les promoteurs et il devient l'acteur principal des activités communautaires, il devient juge et partie. Et en tant que chef, il est vraiment difficile que les gens lui disent, ici ça ne va pas, ce que vous faites là ne cadre pas avec notre vision. C'est très difficile. Mais si lui, il est conseiller, vous allez voir qu'il a, d'abord de par son autorité, sa notoriété dans le milieu, il peut aussi rectifier les tirs de ceux qui sont en train de mener les activités sur le terrain.
Voilà, donc les chefs du village doivent jouer tout simplement le rôle des conseillers.
Des conseillers, absolument.
Ouais, voilà, et ne pas être à la tête du projet. Jérémy Midon nous appelle des bandes de nos villes. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Jerry.
Bonjour à vous, bonjour à l'invité. J'ai une chance de l'inviter, vous êtes dans un village comme ça, un monsieur vient, il vous installe par exemple une radio là. Bon, le monsieur en question est parti, il laisse la responsabilité chez quelqu'un d'autre là, mais l'autre qu'on a laissé la responsabilité commence à vous maltraiter, il considère ces radios comme les radios lui appartiennent. Dès que vous les revendiquez ou vous l'accusez là au justice, est-ce que ça peut poser un problème ce sujet-là?
Voilà, est-ce que c'est un cas que vous avez connu là-bas à Bandonouville?
Oui.
Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Monsieur Chéri, il y a un problème qui se pose. Parce que si il y a eu un promoteur qui a mis en place une radio communautaire, et après il est parti, il a laissé les gens continuer, continuer à gérer, mais l'autre là, il ne répond pas aux besoins ou bien aux desiderata, aux attentes de la population. C'est tout simplement pour la simple raison que le promoteur qui a laissé la personne ne s'est pas entendu avec la population. Parce que nous sommes en train de parler des projets communautaires. Je me dis qu'une radio communautaire n'est pas les propriétés d'une personne. mais c'est un groupe de personnes qui est la communauté. Mais non, s'il y a eu un promoteur, parce que dans toute action, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui commence l'action. Et c'est lui-là qu'on appelle promoteur. Mais le promoteur ne peut pas le faire seul. Il doit le faire avec la communauté. C'est pour cela que quand on doit parler de gestion efficace, la gestion efficace des activités communautaires, il faut 5 préalables. Lequel? Le premier préalable, c'est que ça doit être inscrit dans le long terme. C'est le premier préalable. Mmh. Le deuxième, c'est que ça doit être bien planifié. Est-ce que le monsieur qui a mis en place la radio, est-ce qu'il avait bien planifié? S'il avait bien planifié, certainement qu'à son départ, il devait laisser un comité de gestion et non pas une seule personne. Le troisième préalable, c'est l'équitabilité et l'inclusivité. Est-ce que quand le monsieur a mis en place cette radio, est-ce qu'il a pensé à l'inclusivité, c'est-à-dire à parler avec toute la communauté, à ce que toute la communauté se retrouve dans ces projets de la radio communautaire? Ça doit être aussi soutenu par tous. Mmh. Ça, c'est le quatrième préalable.
Oui.
Étant donné que c'est un projet communautaire, ça doit avoir l'adhésion de toute la communauté. Et le dernier, ça doit être à l'avantage de tous. Et à partir de ce moment-là, qu'on a réuni les 5 préalables, on s'est dit que la communauté peut se sentir concernée par le projet et porter ces projets-là. En ce qui concerne le projet de notre ami Jerry de Bandundu, je me dis que ce n'est pas un projet qui était porté par tous. Et c'est vrai que c'est une radio, certainement que ça devait avoir des répercussions sur toute la communauté, mais ça n'a pas été porté par tous, sinon il n'y aurait pas de problème.
Comment bien gérer un projet de développement communautaire? Madame Brigitte Kanika, experte en développement, est notre invitée. Des questions et préoccupations, n'attendez pas la dernière minute. Appelez-nous au 081-890-63-94.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net, à votre service.
Comment bien gérer efficacement un projet de développement communautaire? Madame Brigitte, vous avez dit d'abord il faut que les gestionnaires comprennent c'est quoi le mot gérer.
Absolument.
Et avoir la même vision, bien faire l'analyse du problème, et le chef du village ne doit pas être à la tête.
Pas l'analyse du problème, l'analyse du contexte.
L'analyse du contexte, voilà.
Ouais.
et le chef du village, vous avez dit, ne doit pas être à la tête du projet, mais jouer le rôle du conseiller.
Absolument.
Alors, quels sont les autres préalables?
Les autres préalables, c'est qu'il faut savoir planifier les activités.
Mmh.
Et nous rentrons dans le cadre de 3 planifications dont on a déjà parlé. Et la première planification, c'est la planification stratégique. Dans la planification stratégique, on doit commencer par ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'analyse du contexte. On doit se demander quelle est la situation actuelle de notre milieu, de notre communauté. Y a-t-il de problèmes? Comment se posent ces problèmes? Y a-t-il des solutions possible. Nous étions en train de dire que dans une communauté, certainement qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent.
Mmh.
Plusieurs problèmes. Mais on ne peut pas attaquer
tous
les problèmes à la fois. C'est en faisant. Parce qu'il y a d'autres problèmes qui ne sont pas réellement de problèmes. Ce sont des effets d'un problème.
Mmh.
Il y a d'autres qui sont des causes. Donc il faut savoir arriver à toutes ces étapes-là. Savoir d'abord quels sont les problèmes qui se posent. C'est comme dans un arbre. Hein. Quand vous voyez un arbre, vous voyez d'abord qu'il y a un tronc d'arbre. Il y a aussi le branche, le fruit.
Mmh.
Mais il
les
faut
feuilles.
Savoir qu'il y a la racine quelque part.
Mmh. Il faut arriver à trouver la racine.
Il faut arriver à trouver la racine. Parce que si vous vous attaquez seulement aux effets, c'est-à-dire si vous devez enlever le fruit, vous n'avez rien fait. Si vous devez couper les troncs, vous savez qu'il y a encore les racines qui sont là.
Mmh.
Ça peut encore remonter. Et donc, il faut savoir d'abord bien analyser les contextes, c'est-à-dire quels sont les problèmes réels qui se posent, quelles sont les causes de ces problèmes-là. Et il vaut mieux s'attaquer aux causes. Et donc, à partir du moment où vous connaissez quelles sont les causes, vous pouvez analyser maintenant les solutions possibles. Quand vous êtes arrivé à analyser les solutions possibles, vous allez voir, par exemple, dans une communauté, il y a le problème d'eau potable qui se pose. Je peux dire d'abord mortalité infantile.
Mmh.
c'est la priorité, parce qu'il y a eu plusieurs problèmes. Peut-être il y a la pénurie de ceci, des produits manufacturés, il y a d'autres problèmes, il y a des problèmes de manque de toiture, ainsi de suite. Il y a le problème de mortalité.
D'électricité,
ça peut se poser, pourquoi pas.
Oui.
Et vous vous dites, voilà, nous avons plusieurs problèmes, à supposer 5, que nous considérons comme prioritaires. Mais pour le moment, nous n'avons pas les possibilités de nous attaquer aux 5. Quelle est la priorité? Quel est le problème prioritaire sur lequel nous pouvons nous attaquer? Ça, quand vous voyez, par exemple, pour nous, nous allons nous attaquer sur la mortalité infantile. C'est le problème que vous avez choisi. Mais pour s'attaquer à la mortalité infantile, il y a plusieurs solutions possibles ou probables. On peut dire, nous pouvons construire un centre de santé. Les autres peuvent dire, non, nous pouvons aller améliorer la route pour avoir accès au centre de santé les plus proches. Les autres peuvent dire non.
Par exemple, les enfants meurent de cochon-corps, il faut peut-être développer les activités
les
agricoles.
Les activités agricoles.
Pour que les enfants mangent bien.
Voilà. Il y a d'autres qui peuvent dire non. Le gros du problème, c'est que nous n'avons pas accès à l'eau potable. Et donc, il y a les maladies diarrhéiques qui font que les enfants meurent à bas âge.
Mmh.
Et alors, en ce moment-là, on se décide, on se dit, comme ce n'est pas seulement un problème qui se pose pour les enfants, il y a aussi des adultes qui sont concernés par le problème. Pour nous, commençons d'abord par mettre de l'eau potable dans notre village. Ça, c'est la solution que nous avons trouvée.
Mmh.
Et donc, nous étions d'abord à la planification stratégique. Et la planification stratégique nous a amené à trouver la solution. Avant, nous avions les solutions, mais dans les solutions, nous avons extrait la solution. Et quand nous avons notre solution, qui est la construction, l'aménagement d'une source d'eau potable, nous allons passer maintenant à la programmation. La programmation, c'est-à-dire ce que nous voulons faire maintenant. Comment allons-nous le faire? Nous avons décidé d'aménager une source d'eau potable. Nous aurons besoin d'abord d'identifier la source. Nous aurons besoin d'acheter du moellon s'il en faut. Nous aurons besoin de la caillasse, nous aurons besoin de tout ça, nous aurons besoin de la pompe. Tout ça là, nous le faisons. C'est ce que nous appelons maintenant la programmation. À partir du moment où nous avons réuni tout cela, nous allons passer maintenant à la planification opérationnelle. C'est la troisième planification.
Mmh.
Et donc, dans notre planification opérationnelle, nous allons maintenant nous dire comment allons-nous gérer notre source? Qui sera responsable?
Qui va percevoir l'argent?
Est-ce qu'il faudra qu'on fasse payer ou qu'on ne fasse pas payer?
Oui.
Qui va percevoir l'argent? Quelle sera la fréquence de l'entretien? Et tout ça, maintenant, c'est l'opérationnalisation de l'action.
Je reviens à vous. Le temps d'accueillir Clément Kabeya, qui nous appelle des Kananga. Clément, bonjour.
Oui, bonjour, je dis Kachama.
On vous écoute, Clément.
Oui, moi, par rapport au sujet de la journée, il y a dans des villages où il y a la pénurie d'eau. Maintenant, il y a des villages qui s'affrontent peut-être pour une source d'eau. Maintenant, vous avez un tel projet pour aller construire une source d'eau dans un village. Et cela va créer des conflits entre ces deux villages. Maintenant, c'est cela par rapport au sujet d'aujourd'hui.
Alors Clément, s'il vous plaît, vous dites qu'il y a un problème d'eau dans un village et les villageois veulent construire une source d'eau.
Oui, ils veulent construire une source d'eau, alors qu'il y a un autre village à côté de celui-ci qui n'a pas aussi les sources d'eau aménagées. Maintenant, les deux là se retrouvent dans une même source d'eau. Dans le cas de projet, comment gérer un projet? Comment cela doit être géré? Est-ce qu'on doit implanter la source d'eau dans un village et laisser l'autre, ou bien on va faire les deux projets à la fois?
Voilà, ce qui peut être une source de conflit parce que tous les deux villages veulent avoir recouru à cette source. Madame Brigitte.
Oh oui, merci beaucoup, M. Clément, pour la question. D'abord, nous devons circonscrire. Nous sommes en train de parler de projets communautaires. Et nous avons bien dit qu'une communauté, c'est un groupe de personnes vivant dans un milieu et ayant le même problème. Et donc, ici, la question se pose. Il y a deux villages qui ont le même problème, c'est-à-dire ils n'ont pas d'eau potable,
oui.
Il faut aménager une source. Maintenant, la question est de savoir où est-ce qu'on va placer la source. Est-ce que si on la place dans un village en laissant l'autre, ça va créer des problèmes?
C'est ça.
Moi, la question que j'aimerais poser à M. Clément, c'est qui veut aménager la source d'eau? S'il s'agit d'un projet communautaire, c'est le village qui a eu l'idée d'aménager la source qui va le faire chez eux. Si ce sont les partenaires venant de l'extérieur, c'est en ce moment-là que ça pose problème. Mais ici, nous nous sommes en train de parler de projets communautaires qui sont faits par la communauté elle-même. Cela voudrait dire tout simplement que si c'est la communauté qui a choisi d'aménager une source d'eau potable, c'est la communauté elle-même. Il est question maintenant de s'entendre, peut-être d'échanger avec l'autre village et de partager l'expérience pour que les deux villages puissent chacun aménager sa source. Moi, je crois que c'est la solution la plus possible. Voilà. Parce que le village a supposé que il y a le village A et B. C'est le village A qui a eu l'idée et qui veut commencer à aménager sa source. Ce n'est pas évident qu'il ira aménager cette source dans le village B, parce que l'idée ne vient pas du village B. Mais tout simplement...
Si peut-être la source se trouve à la frontière entre les deux villages...
Si ça se trouve à la frontière entre les deux villages, donc on aura résolu le problème. Parce que les deux villages peuvent avoir accès, mais alors là, il faudra penser à la planification opérationnelle dont on a parlé.
Et là, il faut une gestion commune.
Comment ça va fonctionner.
Voilà.
Et donc, les deux villages devront se mettre ensemble pour décider des fonctionnements de leurs sources d'eau.
Passion Paul, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je dis donc, c'est qu'à l'invité.
On vous écoute.
Voilà. Moi, j'ai comme préoccupation, j'ai bien suivi donc l'invité, comme il se focalise sur la vision. Mais on constate seulement qu'après avoir réalisé tous ces plans, une année, deux, trois, quatre, on constate vraiment donc que l'initiateur et son équipe gagnent donc peut-être leur vie à travers donc ces projets-là. Du coup donc il quitte donc ce village donc pour s'installer donc en ville. Maintenant je me demande donc quel est donc leur but donc peut-être au moment de quitter vraiment donc le village là où ils étaient donc pour devenir donc s'installer donc. Et deuxième préoccupation. Je prends le cas de certains compatriotes qui créent des centres d'orphelinat. Une fois donc créés ces centres, mais on constate donc à l'intérieur donc, qu'ils ont donc un titre donc là de vendre ses enfants ailleurs. Est-ce que cela contribue-t-il donc au développement communautaire? Comme le cas aussi donc d'un député donc national lors des élections de 2011. Il a construit des bornes fontaines dans son propre village. Et lorsqu'il a constaté donc qu'il avait échoué, et il est donc revenu donc pour démolir vraiment donc est-ce que ce genre de comportement peut-il vraiment donc avancer un village ou bien un pays?
D'accord. Merci, Madame Bougita.
Merci beaucoup, Monsieur Patient. Vous avez parlé d'abord, votre première préoccupation, c'était par rapport aux initiateurs qui gagnent leur vie au détriment du village. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tout simplement parce que les initiateurs n'ont pas toujours la vision, la même vision que le village. Et donc, c'est comme ça que tout à l'heure, j'avais parlé des 5 préalables pour qu'on puisse parler de la réussite d'un projet de développement communautaire. Ce que nous avons constaté, et je l'ai toujours dit dans les antennes de la radio Capi, c'est que la plupart des promoteurs de projets, ils les font non pas pour le bien de paysans ou de communautés, mais ils les font d'abord pour leur propre bien. Et la plupart des fois, je reçois des appels, des gens qui m'appellent pour dire « Madame, mais quel conseil tu veux me donner? Moi, je suis chômeur, je n'ai pas de travail, je voulais bien créer une ONG, quel conseil vous voulez me donner ?» Donc, comprenez que déjà, la vision n'est pas la même. Et c'est comme ça qu'on dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus. Le promoteur qui vient avec leurs idées préconçues, il vient parce qu'il est chômeur, il veut se créer de l'emploi. C'est tout à fait normal que tout l'argent qu'il va avoir puisse aller dans ses propres poches. C'est le premier élément. Le deuxième élément, ce que nous autres aussi, la communauté, nous ne savons pas ce que nous voulons faire. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit qu'une communauté, un bon village, doit d'abord avoir son plan de développement communautaire. Nous avions commencé, moi je pensais que la décentralisation devait être effective dans ces pays. C'est un élément indispensable pour
la décentralisation. Pour permettre le développement des communautés.
Absolument, absolument. Oui. Parce que les ONG qui viennent et qui disent qu'ils viennent pour vous appuyer, ils doivent d'abord s'inscrire sur la vision de la communauté et sur ce que vous, vous pensez qu'il peut faire.
Ce qui n'est pas souvent le cas.
Ce qui n'est pas le cas. Les ONG viennent déjà avec le projet bien conçu, peut-être déjà
imposer.
Avec le moyen, oui. Ils viennent vous imposer. Et la plupart des fois, ce n'est pas pour le bien de la communauté. Ça, c'est un problème. Et ça revient tout de même avec la préoccupation qu'il a dit. C'est qu'ils mettent en place les orphelinats et après, ils vendent les enfants. Et même ces députés qui a mis en place les bornes fontaines, qui les a enlevés parce qu'il n'a pas été élu.
Oui.
C'est tout à fait normal parce que l'objectif de ces projets n'a pas été partagé par la communauté et il n'est pas rentré dans les priorités de la communauté. Pour lui, quand il a mis en place les bornes fontaines, c'était sa façon d'acheter le vote de la population,
oui.
De communauté.
Mmh.
Et un monsieur comme ça, même si vous l'aviez voté, ce qui est sûr, c'est qu'il ne ferait rien pour la communauté. Dès qu'il aurait ses voix, il aurait disparu du milieu et revenir peut-être 5 ans après pour les prochaines élections. Donc il faut que la communauté soit éveillée sur ce point-là.
Mmh. Voilà. Et Alphonse Boudril, elle nous appelle depuis Ngbokolo, en Ituri. Bonjour Alphonse.
Bonjour Jeudi, bonjour à notre invité. Bon anniversaire à Radio Capi.
Merci Alphonse, on vous écoute.
Je suis totalement d'accord avec tout ce que l'invité vient de nous le dire parce que je suis aussi de cette formation-là, donc j'ai fait le développement rural. Alors, je voudrais poser deux questions à notre invité. La première, celle de savoir si qui peut promouvoir un projet communautaire dans un milieu rural. Deuxième et la dernière question, c'est... Je voudrais que l'invité nous dise si les activités politiques, par exemple, un parti politique X... vient dans un milieu, il fait ceci ou cela, est-ce qu'on peut considérer ça comme un projet communautaire? Parce que il y a une situation qui nous est arrivée, nous avons formé une ONGD qui a bien évolué d'ailleurs, j'étais passé sur votre onde. Malheureusement, un monsieur, un politicien est venu, il s'est accaparé de cette ONGD, alors ça nous fait mal. Et je voudrais que l'invité nous dise exactement si les partis politiques les activités qu'elle organise peuvent constituer les projets communautaires ou bien est-ce que un politicien peut organiser une ONGD ou encore autrement, il peut organiser un développement communautaire? Est-ce possible? Est-ce faisable?
Et votre ONGD a travaillé dans quel secteur à Ngbokolo?
C'était dans le domaine de l'environnement. Donc nous avons très très bien évolué, malheureusement, juste vers la fin de 2013, ce politicien est venu, il s'est accaparé, il est parti avec tout, maintenant ça nous a laissé dans les... Qu'est-ce que c'est vraiment? Ça nous a découragé aussi.
D'accord, mm-hmm. Merci. Mm-hmm. Emmanuel Limessé, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur, bonjour.
Bonjour, bonjour, oui, c'est Emmanuel Limessé, à Guémena.
Oui, oui. Je vous ai déjà annoncé, allez-y.
Enfin, je ne serais pas intervenu, ça pourtant remercier la Radio Capi pour son 12e anniversaire, ainsi que tous les auditeurs de la Radio Capi.
Merci, Emmanuel.
Ok, j'avais voulu pouvoir poser une question à notre invité. Et j'ai constaté il y a des activités de développement qui se créent, mais cela n'a pas vraiment un objectif de pouvoir aider la population. Et vous allez voir que ces activités, c'est donc il a un objectif, soit de gagner quelque chose à son hiérarchie. Alors, raison pour laquelle je voulais juste poser la question à l'invité. Comment est-ce qu'on peut savoir que cette initiative ou cette activité est là pour objectif, soit d'aider la population? Parce qu'on a constaté qu'il y a des activités qui se naissent, mais à un certain moment, soit une année, deux ans, quand ils se sont bénéficiés de leurs intérêts, ils abandonnent les activités à leur triste sort. Alors, je voulais juste demander seulement à l'invité, comment est-ce qu'on peut savoir que cette activité qui s'est créée, il a pour un objectif d'aider la population? Voilà, monsieur le journaliste, je dis et je vous remercie.
Merci, Emmanuel. Madame Bougie.
Merci beaucoup à nos deux personnes qui viennent d'intervenir. La
oui.
première, c'est monsieur Alphonse,
mmh.
qui a demandé qui peut promouvoir un projet.
Le développement rural.
Le développement rural, moi je peux lui répondre que n'importe qui peut le faire. Quelqu'un qui est sensible aux problèmes du milieu. Ça c'est un élément indispensable. Il faut la sensibilité. Parce que la plupart de fois, comme on a dit et on a toujours eu à le dire, il y a des gens qui viennent non pas parce qu'ils sont sensibles, parce qu'il y a des problèmes qui se posent, mais ils viennent tout simplement parce qu'eux, ils ont leurs problèmes. et il voudrait que les autres portent leurs problèmes. Quelqu'un qui est chômeur, il a un problème. Il n'a pas d'emploi. Mmh. Il vient créer une activité communautaire, que je dis, communautaire entre guillemets, tout simplement parce que lui, il a besoin d'avoir de moyens pour subvenir à ses propres besoins. Et pourtant, je l'ai toujours dit, que créer une ONG ou bien une association de développement, c'est un apostolat. C'est comme un pasteur qui crée une église. Ben, les anciens pasteurs. Maintenant,
les vrais pasteurs.
Oui, le vrai pasteur. Maintenant, les pasteurs aussi créent pour un besoin quelconque. Et donc, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est une sorte d'apostolat. On veut aider les autres et non, on ne veut pas s'aider soi-même. Il demande si l'activité politique peut être considérée comme une activité de développement communautaire. Ce n'est pas possible.
Là, il semble que beaucoup de politiciens ont aujourd'hui des ONG.
Malheureusement. Or, parmi les conditions de la mise en place des ASBL, entre autres les ONG et les associations de développement, une des conditionnalités, c'est le fait que ça doit être apolitique. On ne peut pas avoir une couleur politique dans une organisation communautaire, dans une ONG ou dans une association au niveau de la base.
Peut-être qu'ils ne s'affichent pas eux-mêmes, mais ils tirent les ficelles dans l'ombre.
Moi, j'ai vu pendant les élections, même avant les élections, beaucoup d'ONG se disaient... Moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé pour dire que voilà, nous sommes... une ONG des partis politiques tels, je ne vais pas citer les noms, et nous avons besoin que...
Moi, ces ça ONG me faisait rire. Ils s'identifient de cette façon-là.
Nous sommes une ONG de tels partis politiques. C'est anormal. Parce que la loi 004 régissant les ONG au niveau de la RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda interdit cela. Et c'est là même au niveau international. Ce n'est pas reconnu. On ne peut pas avoir la connotation politique pour travailler dans une communauté. C'est interdit. Mais cela ne peut pas empêcher qu'une personnalité politique puisse dire « je veux aider ma communauté à mener, à améliorer ses conditions de vie. »
Oui.
Ça, c'est tout à fait à part. Mais ne le faites pas avec l'étiquette d'une ONG. Ne le faites pas avec l'étiquette politique. Vous dites, je viens aider la communauté. Mais ne viens pas récupérer. Et c'est ça, malheureusement.
Ne venez pas peut-être parce que vous voulez avoir des voix
absolument.
Lors des élections.
Absolument. Il y a beaucoup de récupérations politiciennes dans les activités des ONG, malheureusement. Et c'est ce que nous avons constaté depuis un certain temps, je crois, depuis une décennie. Beaucoup même de population, des gens qui étaient des leaders au niveau de la base sont devenus des politiciens tout simplement parce que la base leur a donné confiance et tout ça. Vous parlez à notre nom et dès qu'ils arrivent là où ils voulaient arriver, ils tournent Kazakh et ils deviennent politiques. C'est anormal et c'est pour cela que vous voyez que nous n'avons pas une société civile forte. Parce qu'on est inféodé par le politique.
Oui, c'est une société civile colorée.
Absolument. Et voilà. Pour M. Emmanuel qui a appelé Demena, qui a demandé les activités de développement qui se créent sans que ça ne profite à la population, nous avons déjà répondu à cette question-là. C'est tout simplement parce que les objectifs de la création de ces activités n'étaient pas clairs et n'étaient pas non plus partagés. Parce que la population a besoin, la population doit participer. J'ai dit au départ de cette émission que les activités communautaires, c'est-à-dire la communauté est acteur et bénéficiaire, je dirais actrice parce que c'est une communauté, actrice et bénéficiaire de toutes les actions qui sont menées. Mais ici, nous les prenons tout simplement comme de bénéficiaires. Et c'est comme ça que vous parlez, notre bénéficiaire, notre population cible. Et pourtant, elle doit être aussi actrice. Parce que c'est pour elle qu'on le fait.
Oui.
Et quand tu fais quelque chose pour moi, sans moi, tu es contre moi. Ça, c'est clair.
Ça, c'est clair.
Absolument.
Alors, il semble que souvent dans les milieux ruraux, la vie et les conditions de vie sont très difficiles. La pauvreté est très, très... Il y a un degré de pauvreté très élevé.
Absolument. Mmh. Absolument, mais ce n'est pas toujours évident. Moi, j'ai toujours dit que c'est relatif. C'est relatif parce que dans le village, en tout cas, c'est rare de voir quelqu'un qui passe toute une journée sans manger. Et pourtant,
dans la ville,
on préfère même 2 ou 3 jours sans trouver quoi manger.
Oui.
Et donc, je me dis que c'est relatif. C'est vrai que l'accessibilité aux produits manufacturés est très difficile. Et c'est pour cela que nous considérons cela comme la pauvreté. Mais c'est pas
toujours évident. Ils n'ont pas accès aux équipements sociaux de base.
Oui, ça je suis d'accord.
C'est ça le problème dans les villages.
Ils n'ont pas accès aux médicaments, ils n'ont pas accès aux produits manufacturés. Ils n'ont pas accès aux vêtements.
Les sucres, les savons.
Et tout simplement parce qu'ils ne sont plus capables de produire assez. Parce que pour produire, il faut savoir qu'on produit pour vendre. Si on doit produire pour avoir des moyens, de l'argent, on produit pour vendre. Or, le problème que nous avons actuellement dans le pays, c'est aussi le problème par rapport à l'évacuation de produits. Ce qui fait que le paysan, ceux qui vivent à l'arrière-pays, ne produisent plus. Ils ne produisent que juste pour l'autoconsommation. Et ils ne peuvent plus prendre le surplus parce que le marché n'est pas ouvert. Mmh. Et c'est ce qui fait qu'il y a la pauvreté dans nos milieux ruraux.
Et le moyen pour résoudre ça, il faut s'organiser. Et
absolument.
Avoir des projets.
Absolument.
Par exemple,
j'ai toujours
des routes.
Moi, j'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le dire, parce que peut-être parce que je n'ai jamais parlé de problème de l'agriculture dans une des émissions à la radio Okapi, mais dans d'autres chaînes, quand je parle de l'agriculture, j'ai dit que c'est une des conditions sine qua non pour que le pays arrive à s'en sortir, à sortir de la pauvreté généralisée du pays, où il y a au moins 78% de la population qui vit en deçà des seuils de pauvreté. Il faudra d'abord qu'on commence par améliorer les conditions au niveau de l'arrière-pays, donc dans le village. S'il y a moyen d'évacuer les produits, c'est-à-dire d'abord la priorité, ce sont les routes de dessertes agricoles. Et la deuxième des choses, c'est l'accessibilité aux semences de qualité et aux intrants en général, aux intrants de qualité. Et dès que ces deux conditionnalités sont réunies, je crois qu'il serait très facile que les gens ne viennent plus envahir le ville. Pourquoi les gens viennent dans les centres-villes? C'est tout simplement pour la recherche de mieux-être, ce qui n'est pas toujours évident.
Alors les communautés au village doivent aussi arrêter de compter sur les politiciens et doivent
élaborer
leur propre projet,
absolument.
Par exemple communautaire, c'est ce qu'on est en train de dire.
Absolument, ouais. Et c'est là où intervient la décentralisation.
Tout à fait.
La décentralisation devait permettre aux communautés des bases eux-mêmes de penser à leur avenir. C'est d'abord eux-mêmes. Ils doivent penser, et si le gouvernement central pourra aider, il ne pourra que venir améliorer les conditions, mettre le structure et le moyen possible pour que la communauté puisse avoir, puisse aller de l'avant. Mais sinon, c'est la communauté elle-même qui doit d'abord se prendre en charge, réfléchir sur ses propres problèmes, voir les
le
solutions
développement
probables.
À la base.
Absolument. C'est le meilleur du développement.
Bien, merci Madame Brigitte Kanik, experte en développement. À la prochaine.
Merci beaucoup, Jordi.